Donc on va faire une... Jeté de Chris Marker.
Hein?
Ça va mieux hein, déjà tout de suite dès qu'on enlève le son. Hein. Alors, ah, c'était la musique d'introduction, elle est quand même belle. Donc. Ça aurait été dommage de s'en priver. Bon. Le contexte de réalisation du film est en fait assez important. On en parle assez rarement sur la jetée. C'est vrai qu'on s'appuie principalement sur l'aspect formel, à savoir l'utilisation de photographie comme moyen narratif. Et c'est vrai que c'est une idée formidable, puisque on parle de souvenirs et on a de la photographie qui est vraiment l'instantané du temps passé. Donc on a une adéquation parfaite entre le fond et la forme. Ceci dit, au-delà de cela, il y a un certain nombre de points qui sont à prendre en considération, c'est-à-dire notamment le contexte. En 72, on est quand même dans la guerre froide. On a... j'ai mis les événements de 61, évidemment, parce que le film est sorti en 62, mais il est évident que c'est les événements antérieurs, immédiatement antérieurs, qui ont joué sur le désir de Chris Marker de réaliser ce film, en tout cas qui ont pu l'inspirer. Il y a cette idée de destruction du monde, de destruction de Paris, avec en plus, il faut bien l'entendre, des voix à consonance allemande dans les souterrains de Chaillot. Bon, je pars du principe que vous avez tous vu le film, hein, donc je vais spoiler comme un fou, on est bien d'accord. Tant pis pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais ça serait tellement dommage. Évidemment, il y a une référence à la Seconde Guerre mondiale. Finalement, elle n'est pas si lointaine. Elle est dans toutes les mémoires. Donc, c'est un film qui est lié à son époque. La destruction de Paris qui sert de postulat de départ, c'est celle de la ville en fait, dans laquelle la production du film est la plus facile, à savoir la prise de photos. Donc, pour remettre un peu dans le contexte, encore une fois, en 1940, donc quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Chris Marker a 19 ans, donc en gros, il passe ce qu'on appelle les plus belles années de sa vie pendant la guerre. Il est impossible d'imaginer que cela ne marque pas, de la même façon qu'il est difficile d'imaginer qu'il ne devienne pas plus tard un cinéaste documentariste, justement pour témoigner du monde et des effets des événements sur les cultures et les hommes. La voix met immédiatement le contexte en place. Reprenons un peu justement l'après-guerre. Une des caractéristiques dans l'histoire du cinéma, c'est qu'à l'après-guerre, on a vraiment un envolé du cinéma documentariste. Alors, c'est dû à un certain nombre de raisons. D'abord, on voyage plus facilement. Ensuite, on s'intéresse quand même un petit peu plus aux autres cultures, surtout qu'on commence à avoir des appréciations négatives sur le colonialisme. Il y a aussi tout simplement techniquement, les caméras deviennent de plus en plus légères et on peut les transporter plus facilement. Tout cela fait qu'on a une nouvelle génération de documentaristes qui arrive et qui prend la réalité sur le vif avec une nouvelle façon qui n'aurait pas en fait été possible dans les années 30. C'est un autre monde, clairement. Alors, je vais faire beaucoup de parallèles en fait avec Alain René parce que ils ont des trajectoires qui sont très souvent convergentes. D'abord, ce sont au départ deux cinéastes justement documentaristes. Dès les années 50, donc dès l'immédiat après-guerre, Chris Marker parcourt le monde. Il réalise beaucoup de films. Alain René travaille de façon plus, disons, moins nomade. Il s'intéresse davantage à retracer des parcours artistiques ou des témoignages de style artistique. Le Van Gogh, qui date de 47, Oscar du meilleur court-métrage, est un film très très surprenant, par exemple, qui est tourné en noir et blanc. Van Gogh. Et qu'avec des gros plans sur, finalement, les touches, la patte de la peinture qui est étalée sur la toile. Il y a des parties pris très clairement qui sont différents de ce que l'on connaissait avant. C'est-à-dire, on ne va pas forcément avoir des grands angles, on va pouvoir on va s'amuser à trouver des esthétiques cinématographiques nouvelles de manière à témoigner d'une nouvelle manière. Et puis, par ailleurs, indépendamment de leur trajectoire personnelle, ils travaillent ensemble. Chris Marker est assistant sur Nuit et brouillard, un autre documentaire, et pas n'importe lequel, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont vu le film, un documentaire sur les camps de la mort, et René collabore à Loin du Vietnam de Chris Marker un petit peu plus tard, après La Jetée, mais donc, vous avez entendu, leur collaboration dure quand même assez longtemps. 3 ans avant La Jetée, René réalise Hiroshima, mon amour, et pourquoi pas Auschwitz, mon loup, comme disait quelqu'un. Quels en sont les thèmes? Finalement, si on regarde bien, les thèmes ne sont pas si éloignés de ceux qui seront développés 3 ans plus tard dans La Jetée. Le rapport à l'histoire, la tragédie individuelle, la destruction du monde, la ruine, la mémoire, et évidemment, l'amour.
Hiroshima. La nuit, ça ne s'arrête jamais à Hiroshima.
Jamais, ça ne s'arrête à Hiroshima.
Je me souviens l'avoir entendu avant. Avant, pendant que nous nous aimions. Pendant notre bonheur.
Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien.
C'était mon premier amour.
Ça me fait toujours bizarre de voir cette bande-annonce parce que j'ai travaillé un mois à Hiroshima et la ville est vraiment marquée par la mémoire. Qu'est-ce que le documentaire finalement ? Une manière de figer le temps, de témoigner, d'accuser aussi, de trouver une dimension fictionnelle dans la réalité. Ça peut paraître un peu curieux, cette dimension fictionnelle dans la réalité, mais en fait, l'objectivité en art n'est pas réalisable, elle n'existe pas. On est obligé de toute façon, pour des raisons pratiques, d'organiser ce que l'on récolte de manière à raconter, même si on raconte des faits. Donc, les deux cinémas ne sont pas si différents et opposés qu'on le pense généralement. Alain René et Chris Marker co-réalisent « Les statues meurent aussi ». 53. Voilà le début du film. J'avais coupé un petit peu le générique de début qui est très long. C'est livré dans son jus.
Sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture. Des statues est mortel. Un jour, nos visages de pierre se décomposent à leur tour. Une civilisation laisse derrière elle ses traces mutilées comme les cailloux du petit poucet, mais l'histoire a tout mangé. Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu. Et quand nous aurons disparu, nos objets iront là où nous envoyons ceux des nègres, au musée.
Je vous avais dit, c'est livré dans son jus. Évidemment, aujourd'hui, ce type de commentaire serait pour le peu indélicat. Vous avez remarqué, en fait, on commence ce film, qui est d'ailleurs très intéressant, avec donc des photos comme témoignages du passé ou de l'oubli. On a cette fascination pour les statues, pour l'histoire artistique. On l'a également dans La Jetée, dans le souterrain de Chaillot. On a un bric-à-brac, comme une sorte d'arche de Noé, dans laquelle on aurait très rapidement, ou même peut-être par hasard, archivé quelques artefacts de l'ancien temps. Les statues que l'on voit à gauche, parfois mises en lumière, au sens propre. L'homme dont nous racontons l'histoire, pour reprendre la phrase de l'ouverture de La Jetée, traverse d'abord ce couloir du souvenir dans lequel sont entreposées les œuvres d'art qui sont mortes, les statues qui sont mortes. Il passe d'abord par le souvenir de sa propre civilisation avant d'aller explorer d'autres passés. Le temps de souvenir chez René existe aussi, et notamment avec un film de science-fiction qui est absolument admirable pour ceux qui ne l'ont pas vu, J'ai dit lui, en fait, parce que c'est vrai que le scénario est signé de Jack Steinberg et particulièrement remarquable. Trouver le DVD, c'est absolument superbe. C'est Je t'aime, je t'aime, avec le regretté Claude Rich. Remarquez la figure centrale, en fait, de l'affiche. C'est ça qui est intéressant. On va quand même regarder un peu la bande-annonce. C'est un film qui bégaye en permanence, avec des allers-retours, avec des scènes qui sont montées plusieurs fois de suite, parce que la machine à explorer le temps n'est pas fiable. Alain René, avant d'être réalisateur...
Notre unique sujet d'étude, c'est le temps.
Pas d'appréhension ?
Non. J'ai passé le plus clair de ma vie dans la peur, sans raison précise, et maintenant je n'ai pas peur.
Vous serez dans une sorte de sphère, mais après votre retour, vous devrez attendre au moins 4 minutes avant qu'on puisse vous récupérer.
Mais vous ne me reconnaissez pas ? Je m'appelle Claude Rider.
10 sur 10 si vous étiez une sourde.
Impossible à dire. C'est la première fois que vous en entendiez avec un homme.
Cet homme va accepter d'être le cobaye d'une expérience qui lui offre de revivre une minute de son passé. Il le fera pour cette femme, pour voir s'animer ce visage, se lever ce regard, pour lui dire encore une fois « Je t'aime, je t'aime ».
Que je sois là. Il y a l'intention de me faire empailler, de me mettre dans un coin, mais je suis vivant. Là, je vais, je viens, je bouge, je vois d'autres gens. Mais si je voyais que toi, il y a longtemps, je me serais fait trancher la gorge. Je peux rien pour toi. T'as pas encore compris? Plus on donne, plus on t'en fait. Non.
Un peu plus tard, tu vas rencontrer une de mes sœurs.
Je me demande si je devrais pas la quitter. Je peux rien pour elle.
Vous remarquez à quel point cette bande-annonce est découpée en multiples instantanés de 1 ou 2 plans maximum. En fait, exactement comme le film finit.
Ils ont vécu 7 ans ensemble. Leur amour, c'est
une scène à l'autre.
Mais pour Claude Rider seul, le passé redevient le présent. Au gré des minutes et des secondes qu'il a réellement vécu, il va tomber en chute libre d'un moment à un autre, d'un visage à un autre. Ce film est moins la biographie d'un homme que sa vérité secrète, ses hantises, sa passion pour une femme.
Catherine !
1 minute.
Tu bouges ?
Encore 3 minutes et on va pouvoir la récupérer.
Alors que l'autre n'a jamais bougé de son bocal, la souris B a été rejetée dans le temps. Elle a vécu 1 minute de son passage.
Alain René, avant d'être réalisateur, était monteur. Et évidemment, le montage, qui est l'outil le plus proprement cinématographique qui soit, est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de développer des récits qui ont trait au temps et aux événements chronologiques ou non. Je vous parlais de l'affiche en soulignant la forme de ce portrait de femme qui s'enroule sur lui-même, donc la spirale qui amène le vertige en fait des paradoxes temporels également, de la vérité du souvenir, vertige, vertigo, et évidemment on arrive à au vertigo d'Hitchcock, ce n'est pas pour rien, parce que, en fait, bon, d'abord, clairement, on a un lien de parenté esthétique évident entre les affiches, mais il n'y a pas que cela.
Là, vous allez me dire, mais on s'éloigne de la jetée. Non, pas du tout.
Le sol basse quand même, c'est beau. La musique de Herman est absolument sublime. Il y a dans ce générique absolument toute la complexité et la folie qui anime le scénario. Un film à voir et à revoir. Cette spirale est intéressante parce qu'on peut aussi, bon, c'est quand même le corps du générique de Vertigo, on la retrouve en fait dans les circonvolutions des troncs d'arbres que l'on a coupés.
Il s'arrête devant une coupe de séquoia couverte de dates historiques. Elle prononce un nom étranger qu'il ne comprend pas. Comme en rêve, il lui montre un point hors de l'arbre. Il s'entend dire « Je viens de là ». Et il retombe à coup de force.
Alors, y a-t-il réellement, comme on l'a souvent entendu dire, une relation directe entre Vertigo et la jetée ? Clairement, oui. La preuve avec, en fait... deux extraits de films, un autre de Vertigo. C'est-à-dire en fait l'équivalent de la scène que l'on a dans la jetée. Évidemment légèrement différent puisque là elle disparaît à la fin par un effet de décor. Disparaît derrière un arbre. La photographie de Robert Burke est absolument Le temps dans la jetée, c'est également en fait le temps souffle cinématographique de Chris Marker aussi. C'est le cinéphile qui égrène les moments qu'il a aimés par le passé dans une salle de cinéma.
Where I was born. There
faut qu'elle consulte, hein, franchement. Je ne voudrais pas dire. Et attention, là, prestidigitation. Bon, j'ai un peu triché, j'ai fait un arrêt quand même. Mais ceci dit, elle reste réellement derrière l'arbre dans le film. Et on a immédiatement un plan sur John Stewart qui est passé où, et on la reprend et elle s'en va, mais avec une sorte, comme si le temps s'était dilaté derrière l'arbre, avec un temps de retard. Donc le temps perdu à la recherche du temps, voilà ce que disait Chris Marker à un moment. On s'exprime beaucoup mieux par les textes des autres, vis-à-vis de qui on a toute liberté de choix, que par les siens propres qui vous fuient comme s'ils le faisaient exprès au profit des parts de Dieu ou du diable. Donc, sous-entendu, les citations sont les bienvenues. Chris Marker réalise un film assez intéressant et parfois un peu énigmatique quand on le... parce que, bon, il a tendance à partir un peu dans tous les sens. C'est Sans soleil, sorti en 1983. Et dedans, entre autres, parce que vraiment je vous dis, c'est tourné quatre coins du monde, il arpente effectivement les rues de San Francisco pour retrouver les lieux de tournage de Vertigo et en même temps fait une auto-citation.
Dans la spirale du générique, il voyait le temps qui couvre un champ de plus en plus large à mesure qu'il s'éloigne. Un cyclone dont l'instant présent contient immobile l'œil. Il avait fait le pèlerinage à San Francisco, de tous les lieux de tournage. Le fleuriste Podesta Valdocchi, ou James Stewart et Pete Kim Novak, lui le chasseur, elle la proie, ou bien était-ce l'inverse? Le carrelage n'avait pas changé. Il avait parcouru en voiture toutes les collines de San Francisco, où James Stewart Scotty suit Kim Novak Madeleine. Il semble être question de filature, d'énigme, de meurtre, mais en vérité, il est question de pouvoir et de liberté, de mélancolie et d'éblouissement. Si soigneusement codé à l'intérieur de la spirale, qu'on ne peut s'y tromper, et ne pas découvrir tout de suite que ce vertige de l'espace signifie en réalité le vertige du temps. Il avait suivi toutes les pistes jusqu'au cimetière de la mission Dolores, où Madeleine venait prier sur la tombe d'une femme morte depuis longtemps, et qu'elle n'aurait pas dû connaître. Il avait suivi Madeleine, comme Scotty l'avait fait, au musée de la Légion d'honneur, devant le portrait d'une femme morte qu'elle n'aurait pas dû connaître.
Vous voyez, comme les images du film.
Et sur le portrait, comme dans la chevelure de Madeleine, la spirale du temps.
Les images du film sont fixes, et le film, tourné par Chris Marker, est lui développé dans le temps.
Le petit hôtel victorien où Madeleine disparaissait avait disparu lui-même. Le béton l'avait remplacé, à l'angle de Diengo. En revanche, la coupe de séquoia était toujours à Merwood. Madeleine y montrait la courte distance entre deux de ces lignes concentriques qui mesurent l'âge de l'arbre et disait « Ma vie est tenue dans ce petit espace. » Il se souvenait d'un autre film où ce passage était cité. Le séquoia était celui du Jardin des Plantes à Paris et la main désignait un point hors de l'arbre, à l'extérieur du temps.
C'est de l'autocitation avec un effet de mise en abîme qui donne effectivement le vertige. Cet extrait que j'ai pris intervient à peu près au premier tiers de Sans soleil. Mais il est vraiment particulièrement emblématique. Et comme je le disais, les représentations du film d'origine de Vertigo sont finalement des images de souvenirs, ce sont des instantanés, ce sont des images fixes également, des photographies. Alors que l'enquête, plus ou moins falsifiée, de Chris Marker, elle, est en dynamique. Donc, on doit en déduire quoi ? Que vraiment, il s'agit pour le réalisateur du souvenir de l'impact d'un film qui a été très important pour lui et auquel il n'a pas arrêté de faire référence. L'autre point, évidemment, de la jetée, impossible de faire l'impasse dessus, et puisqu'on parle d'image fixe, c'est évidemment la photographie. Alors, évidemment, pour la jetée, c'est évident, mais la jetée est un film particulier, en fait, dans la filmographie de Chris Marker, puisque c'est d'abord un documentariste. finalement, c'est pas tellement un cinéaste de fiction, et l'une des rares œuvres de fiction qu'il réalise, c'est vraiment de la vraie fiction, je vais faire de l'art-tape, pas de la blanche, de la science-fiction, de la vraie fiction. Donc, on pourrait imaginer qu'il va là utiliser des moyens spectaculaires, et en fait, il reprend tout de même l'outil le plus classique du documentariste, c'est-à-dire la photographie. Il faut savoir qu'en fait, Marker a fait énormément de photographies et il a publié un certain nombre de livres de recueils de ses propres photographies, de la même façon qu'il a également été directeur de collection d'ouvrages de recueils de photographies.
Au 10e jour d'expérience, des images commencent à sourdre, comme des aveux.
Regardez bien la
mise en scène. Un matin du temps de paix.
Fondu au noir.
Une chambre du temps de paix.
Ouverture au noir.
Une vraie chambre.
Fermeture au noir.
De vrais enfants.
Ouverture au noir. Pas de plan de caméra.
De vrais oiseaux. De vrais chants. Le 16e jour, il est sur un jeté, vide. Quelquefois, il retrouve un jour de bonheur, mais différent. Un visage de bonheur, mais différent. Celle qu'il cherche. Il la croise sur la jetée.
Ah, et soudain,
d'une voiture, il la voit sourire. D'autres images se présentent, se mêlent dans un musée qui peut être celui de sa mémoire.
Alors, dans cette séquence est très intéressante parce que on a, je vous disais, fondu au noir, ouverture au noir, on n'arrête pas de couper les premières photos, enfin pratiquement toutes les photos de cette scène pour finalement avoir comme des flashs qui viennent d'un projecteur de diapositives. C'est vraiment l'essence même de la photo, même si là en l'occurrence on sent que c'est le tirage noir et blanc, hein, mais bon, sur l'idée, puisqu'on est de toute façon, c'est un film, donc il est projeté comme un projecteur de diapositive projette des images, on a réellement cette sensation d'avoir des instantanés qui sont amenés, et ce sont que des reflets, les premiers plans sont généraux. Ils sont finalement, après ils deviennent de plus en plus anecdotiques, on se rapproche progressivement des sujets, mais au début il y a une certaine forme de neutralité, ce sont comme des prises de notes qui viendraient à l'esprit. Le problème, c'est qu'il faut raconter une histoire dans la jetée, et alors on ne peut évidemment pas continuer d'utiliser ce principe qui fonctionne très bien pour les prémices du voyage dans le passé, mais à un moment il faut organiser la narration, et là, bah finalement, comme on est quand même en train de voir un film, un moyen métrage, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise la grammaire cinématographique. On a chaque photo est utilisée comme un plan, mais un plan qui n'aurait pas de mouvement interne, un plan qui serait juste une photo, donc qui n'aurait pas de dynamique interne. Celle, la dynamique principale, c'est celle de la du temps d'exposition de la photo.
Ce qui mène l'expérience resserre.
Donc c'est le montage.
Les relances sur la piste.
Voyez,
le temps s'enroule à nouveau. L'instant repasse.
On a un gros plan sur elle, puis ensuite un plan plus large, même...
Cette fois, il est près d'elle. On repart.
La caméra tourne autour.
Elle l'accueille sans étonnement.
Ces plans
ils sont sans souvenir, sans projet. Leur temps se construit simplement autour d'eux, avec pour seul repère le goût du moment qu'ils vivent et les signes sur les murs.
Ils regardent, on a le subjectif. On revient sur eux pour leur promenade dans le jardin. Ils se rappellent qu'il y avait des jardins.
Plus tard, ils sont dans un jardin. Ils se souviennent qu'il existait des jardins.
Là, on a finalement un travelling arrière. Ensuite, la caméra dégage pour les laisser passer. On a comme des instantanés d'un véritable film dynamique développé dans le temps. Mais comme vous le remarquez, comme on est dans une narration directe, on n'a que des transitions.
Elle l'interroge sur son collier.
Pas de fondu enchaîné.
Le collier du combattant qu'il portait au début de cette guerre qui éclatera un jour. Il invente une explication.
Par contre, là où il va y avoir beaucoup de fondu enchaîné, c'est quand on arrive dans la véritable projection dans le passé du personnage, du protagoniste. J'appelle la séquence du lit, celle où l'on se retrouve à voir la femme qu'il a cherchée, qu'il a vue sur la jetée, dans, se réveillant le matin dans son lit. Et alors, c'est très intéressant parce que du coup, les fondus enchaînés sont tellement lents et le nombre de plans suffisamment important qu'en fait, on a une perception de mouvement avec en plus une accélération progressive du tempo qui permet d'aboutir avec l'unique plan tourné à vitesse réelle du film, c'est-à-dire à 24 images par seconde. Marker avait emprunté une caméra juste pour l'après-midi de manière à réaliser cet unique plan en mouvement. La bande sonore est très différente. Je l'avais mis au début, même si c'était très fort, et j'en suis désolé. La bande son plutôt assez néoclassique de la qui est emblématique du film. La musique dans le film est plutôt acoustique d'abord. Donc d'un style néoclassique, plutôt une certaine, disons, dramaturgie qui est développée. Là, ce n'est pas du tout le cas. En fait, on a un son, un effet sonore, plus qu'une musique dans cette scène, comme si on passait, bon, comme je l'écris, comme si on passait quand même dans une autre dimension qui n'est même plus tout à fait celle du souvenir, mais comme une autre réalité. Ça, on l'a au niveau sonore, mais on l'a aussi au niveau de l'image. Quand il va dans le futur, puisqu'après cette réussite parfaite d'intégration dans le passé, évidemment, les responsables du souterrain sont très heureux et décident de l'envoyer vers l'avenir cette fois-ci. Et là, du coup, comment représenter l'avenir alors qu'on était depuis le début sur le procédé de la photographie qui est un emblème du passé. remettre des photos, les truquer, les travailler graphiquement pour qu'on ait le sentiment que ce soit une sorte de photo du futur, venu du futur, ça serait probablement maladroit. Et là, l'intelligence en termes de mise en scène, c'est de se dire, ok, on n'en sait rien, on va garder ça mystérieux, on ne va pas faire une sorte d'anticipation de ce que l'on pourrait voir, on va travailler sur, en fait, le texte qui donne une explication aux figures qui sont exposées avec, là, les mouvements
de caméra. Au terme d'autres essais encore plus éprouvants pour lui, il finit par entrer en résonance avec le monde futur. Il traversait une planète transformée. Paris reconstruit. 10 000 avenues incompréhensibles.
C'est un moment très exceptionnel dans le film où en fait on nous amène à... On demande au spectateur de croire en ce que l'on nous expose. Parce qu'on n'a plus de repères. On n'a plus qu'à donner foi à ce que nous... aux indications de la voix off. Alors s'échapper du temps, s'échapper de l'espace, finalement notre personnage ne rêve que de cela, et c'est à peu près le cas de tout le monde, y compris nous d'ailleurs, parce que bon, on aimerait bien s'échapper de la course du temps. Par exemple, la mort ne nous paraît pas forcément un destin particulièrement réjouissant.
De vrais oiseaux.
Et du coup, le thème de l'oiseau, qui est quand même l'emblème de la liberté, revient assez régulièrement. Là, on avait eu ses premiers souvenirs avec de vrais enfants, de vrais oiseaux, de vraies tombes, etc. Mais quand ils vont visiter le musée aux bêtes immortelles, bon, bref, le musée du Jardin des Plantes, on a énormément de plans sur les oiseaux. Quelle est la particularité d'un oiseau ? C'est qu'il vole comme un oiseau, comme un avion, donc, que l'on pourrait évidemment trouver où ? Bah, sur la jetée.
Une fois sur la grande jetée d'Orly, dans ce chaud dimanche d'avant-guerre où il allait pouvoir demeurer, il pensa avec un peu de vertige que l'enfant qu'il avait été devait se trouver là aussi à regarder les avions. Mais il chercha d'abord le visage d'une femme au bout de la jetée.
Et regardez bien le montage là.
L'observation.
Voilà.
Et lorsqu'il reconnut l'homme qu'il avait suivi depuis le camp souterrain, il comprit qu'on ne s'évadait pas du temps et que cet instant qui lui avait été donné de voir enfant et qui n'avait pas cessé de l'obséder, c'était celui de sa propre mort.
C'est que je vais enlever le son, pouf, et je le remets. Ce que je trouve extraordinaire par un effet d'ironie, l'art est un petit être prophétique, c'est que les souterrains de Chaillot dans lesquels ont été photographiés les plans du film vont servir à entreposer la mémoire du cinéma un an plus tard. C'est bon. Pour les Jungiens, ils verront de la synchronicité. Pour les autres, juste de la poésie. Un très beau hasard. Mais c'est quand même assez extraordinaire que finalement, là, c'est vrai que la Cinémathèque française était installée dans le palais de Chaillot pendant très très longtemps, avant d'être installée dans les autres, enfin dans les nouveaux locaux il y a à peu près 15 ans. Des générations de cinéphiles ont progressivement détruit les fauteuils. Mais surtout, en fait, la cinémathèque, comme toute cinémathèque, est un gigantesque, une très grande bibliothèque, un gigantesque musée du cinéma, où quelquefois d'ailleurs des pellicules sont oubliées et on les redécouvre et tout à coup on s'aperçoit qu'il y a des films que l'on peut reprendre du passé. Le cinéma est une machine quand même aussi à explorer le temps. À chaque fois que l'on voit un film un petit peu ancien, notamment un film de fiction, c'est-à-dire un film photographique, je ne parle pas d'un film d'animation, on se retrouve très souvent à avoir une sorte de vertige en se disant « Ah oui, c'est vrai que les choses étaient comme ça, oui, c'est vrai que le métro était comme ça, oui, c'était... on avait ces voitures-là, des choses comme ça. » Donc le lieu du souvenir exploré est devenu le véritable lieu de l'entrepôt du souvenir. Voilà. Si vous avez des questions, ou si on a un peu de temps, mais je ne suis pas sûr. Non, il est 18h pile. Donc, je vous remercie pour...